Alors, je vous invite à une petite méditation ce matin sur un texte de Jacques, Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Il y a quelques semaines, je discutais avec ma plus jeune fille, Louane, du fait qu'en Belgique, l'école est obligatoire pour les enfants. C'était un de ces matins où Louane aurait préféré rester tranquillement à la maison pour jouer. Et quand je lui dis cela, que l'école est obligatoire, qu'il faut y aller, elle me dit « Maman, ce n'est pas possible que l'école soit obligatoire. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Parce que cela voudrait dire qu'on n'est pas libre. Et on est quand même dans un pays où on est libre, maman. N'est-ce pas? Alors, je n'ai pas eu le temps de finir cette conversation, il fallait absolument partir à l'école. Mais effectivement, si on a des obligations, est-ce qu'on peut encore parler de liberté? Pour Louane, être vraiment libre signifie faire ce que l'on veut. Qu'est-ce que cela veut dire, être vraiment libre? Chacun a sa petite idée et beaucoup proposent des réponses. Je ne suis pas sûre que les gens sont au courant que la question de la liberté est un thème central du Nouveau Testament. Paul dit « Tout est permis en Christ ». Un autre endroit dans Galates, il dit « C'est pour la liberté que Christ vous a libéré ». Certains vont manger pour honorer Dieu, d'autres vont jeûner pour honorer Dieu. Certains vont mettre un jour à part, pour d'autres chaque jour est à part. Certains vont commencer leur journée en prière, d'autres vont la terminer. La vie chrétienne a autant de déclinaisons possibles que de personnes. Et les assemblées expriment leur louange et leur foi de manière différente. Et l'apôtre Paul valorise cette diversité. C'est normal, parce que la foi est relation entre moi et le Seigneur et non religion. Elle est espérance vivante et non rite figé. Il n'en reste que la notion de liberté chrétienne est complexe et profonde. Et parfois, on a du mal à saisir, à se situer, on ressent une tension. On l'a d'ailleurs vu dans le chant « Ma volonté ou la volonté de Dieu ?»« Ma liberté ou l'obéissance ?» Peut-être que ce texte de Jacques peut venir encore accentuer cette tension, cette confusion. Parce que les quelques versets que nous avons lus ont deux thèmes, la mise en pratique et la liberté. Et ces deux thèmes qui semblent contradictoires. Est-ce que je dois mettre en pratique ou bien est-ce que je suis libre? Quand je suis chrétien, est-ce que je dois faire des choses, obéir à des règles, à des préceptes, ou bien est-ce que je peux être vraiment libre et choisir? Et cette tension, vous le savez sans doute, mais elle se retrouve au cœur même du protestantisme. On reproche à des églises d'être trop libérales, traduisez des églises qui prennent trop de liberté, avec le texte notamment, et à d'autres d'être trop légalistes, traduisez des églises qui sont dans un rapport de soumission à une loi dans leur manière de lire le texte. Le texte de Jacques dirait sans doute ni l'un ni l'autre, ou plutôt et l'un et l'autre. Vivez selon la loi de liberté. J'ai été prof de français dans ma vie précédente, et si j'avais dû analyser cette expression en classe, vivre selon la loi de liberté, j'aurais pu parler avec mes élèves d'oxymore, c'est-à-dire de l'association dans un même groupe de mots de deux idées contradictoires. La loi de liberté. Ces quelques mots m'interpellent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce serait plus simple si le texte nous disait soit qu'on était libre, vivez librement, ou bien qu'on avait à obéir à la loi, vivait en obéissant à la loi. Au moins, on saurait à quoi s'en tenir. Mais une loi de liberté, ça nous laisse inconfortables, comme souvent avec l'Évangile. Comment une loi pourrait-elle être une loi de liberté? Alors j'aimerais visiter ce texte avec vous sous le regard de quelqu'un pour qui le thème de la liberté avait une valeur centrale. Il s'agit de Jacques Ellul. C'est un théologien du XXe siècle que j'aime particulièrement. Et avant de poursuivre sur notre texte, j'aimerais vous dire quelques mots de sa vie. Jacques Ellul était fils unique. C'est un homme du XXe siècle, d'un père libre penseur et non croyant. Sa mère était protestante, mais ne parlait jamais de sa foi par respect pour son mari. Donc il n'a reçu aucune éducation religieuse ni d'attache ecclésiale. Et quand il arrive à l'âge de 17 ans, il va vivre une conversion brutale et inattendue, complètement inattendue, qui n'était pas du tout préparée par un catéchisme ou un scoutisme. Il n'avait eu aucune relation avec l'Église. Il avait été éduqué dans une vraie laïcité. Il était en train de faire un travail scolaire, une traduction d'un texte de Goethe qui n'était pas du tout un texte à tonalité chrétienne, quand d'un seul coup, il a eu l'évidence de la présence de Dieu. Ça s'est imposé à lui de façon brutale, inattendue et complètement évidente. Et sa première réaction, ça a été la peur de cette présence de Dieu. Et en fait, il l'expliquera plus tard, la peur qu'il y avait là derrière, c'était la peur de perdre sa liberté. La liberté pour Ellul était une valeur sacro-sainte, centrale. Et il va essayer de fuir cette conversion qui lui est tombée dessus. Au moment où ça lui arrive, il va prendre son vélo et parcourir des dizaines de kilomètres dans la campagne pour essayer de fuir ce Dieu. Et pendant 6 mois, il va essayer de résister à cette conversion. Il va lire des quantités de textes antichrétiens, Marx et d'autres, pour voir si cette foi tenait. Il va se soumettre à des tas d'arguments contraires à la foi. Et au bout de 6 mois, il cède à la foi chrétienne. Le basculement tient au fait qu'il réalise qu'en devenant chrétien, il accède à la véritable liberté. Jusqu'ici, dira-t-il, il vivait de liberté factice, illusoire. Parce que finalement, on ne triomphe jamais vraiment de soi quand on y réfléchit. On est souvent esclave de nous-mêmes. On est un obstacle à notre propre liberté. Il n'y a pour Ellul qu'en Christ qu'on peut accéder à la vraie liberté. Et il va pleinement saisir ce verset de Paul. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. À partir de là, il va dans toute son œuvre, qui est colossale, opposer la liberté en Christ avec les autres libertés. Alors juste pour l'anecdote, quand il va annoncer à sa maman qu'il s'est converti, sa maman va lui répondre « Je ne suis pas du tout surprise. Je prie pour ta conversion depuis ta naissance. » Conversion inattendue pour Jacques Ellul, mais pas du tout inattendue dans le cœur de Dieu, qui avait recueilli ces années de prières silencieuses d'une maman aimante. Et je me disais, quel encouragement à prier pour nos enfants et à prier de manière générale. Pour terminer sur Ellul, il était déjà étudiant au moment de sa conversion. C'était un jeune homme très doué, très précoce. Il va être docteur en droit à l'âge de 24 ans. Il a vraiment de grandes facilités intellectuelles. Et lorsqu'il devient chrétien, il va essayer d'appliquer les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il va prendre pour lui cette dernière parole, de toute ta pensée. Il se dit, puisque j'ai reçu des facultés intellectuelles, je vais m'efforcer d'aimer Dieu de toute ma pensée. Et il va se consacrer à la pensée, à un métier d'intellectuel, et il va laisser une œuvre énorme à la fois en sociologie et en théologie. Alors revenons à notre texte, éclairé notamment par certaines de ses réflexions. Qu'est-ce que cette loi de liberté selon laquelle je suis appelé à vivre? Premier point, c'est d'abord la loi parfaite qui reflète la liberté même de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais Dieu n'obéit lui-même à rien. Le salut que Dieu nous donne n'est pas lié au bien ou au mal que nous faisons. Il nous sauve par grâce, par cette intention d'amour libre. Il aime et dans sa libre volonté, il crée. Jacques 1, verset 18 dit « Il nous a engendrés selon sa libre volonté ». La liberté est donc liée dans le cœur de Dieu à la gratuité. Sa parole réalise, crée par pure grâce, gratuitement, gouvernée par l'amour. Quand on contemple ça, quand on contemple cette loi, on contemple cet amour pur, cette grâce, cette liberté radicale de gratuité d'action qui crée et qui aime. Ça nous renvoie immédiatement à nous. On voit nos propres intentions, comme tu le disais, 20 fois par jour. On voit nos propres actes, tellement souvent teintés de calcul, de stratégie, d'intérêt, d'égoïsme, comme dans un miroir, dit le texte de Jacques. Celui qui voit cela et puis s'en va et oublie, se fait des illusions sur lui-même, dit le texte. Dieu nous appelle à la liberté et tout dans notre nature nous pousse à être asservis. Nous avons une tendance naturelle au repli, au calcul, au protectionnisme. Et nous avons énormément de mal avec la gratuité. Je ne sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un me propose quelque chose de gratuit en rue, je me dis que c'est louche. Qu'on me cache quelque chose qui a une intention cachée. Même chose dans nos actions. Ce que je fais doit souvent me rapporter quelque chose. Un plaisir, un avantage, une avancée, un confort, un sentiment de satisfaction, peu importe. Le Seigneur essaye, en nous révélant son évangile, sa loi de liberté, de nous délivrer de cet esprit de calcul, de toutes ces choses qui nous tiennent en permanence dans nos intentions pour nous rendre libres, pour nous faire vivre l'expérience extraordinaire de l'amour gratuit. Je pense au jeune homme riche, vous connaissez ce texte, hein, il vient vers Jésus, qu'est-ce que j'ai fait ceci dans ma jeunesse, qu'est-ce que je dois faire encore, etc. Et Jésus ne lui dit pas d'emblée, toi vends tous tes biens et suis-moi. Non. D'abord, il lui a répété avec douceur les paroles que cet homme a suivies avec fidélité, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Et c'est parce que l'homme insiste auprès de Jésus que Jésus lui dit, et moi quand je lis ce texte, je suis sûre qu'il y a beaucoup de tendresse dans ses paroles, il dit à cet homme, vends tes biens, vends tes biens, c'est ce qui te tient, c'est ce qui guide tes gestes, c'est ce qui t'emprisonne, donne et sois libre. Contempler la loi de liberté doit nous amener à rechercher la même gratuité dans nos actions, nos réalisations. Et c'est peut-être une première question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que mes choix, est-ce que mes actions, est-ce que mes réalisations sont guidées par l'amour et par une intention gratuite? Qu'est-ce que nous observons ce matin dans le miroir? Alors deuxièmement, la loi de liberté, c'est la loi dont le but est la liberté. Quand nous nous sondons au regard de la parole qui fait vérité sur nous, nous devons avoir pleinement confiance que l'intention de Dieu est de nous rendre libres. Combien de fois nous nous crispons en pensant à la volonté de Dieu, en pensant à lui comme un juge qui a donné des commandements à suivre sous peine de punition? Pourtant, quand on lit les textes bibliques, depuis la Genèse, Dieu pose des actes, successifs de libération. Et la loi qu'il nous donne, ce ne sont pas que des commandements, ce sont des paroles vivantes destinées à transformer les individus. On aurait tort d'enseigner sur le sujet du péché, sur cette vérité que j'observe dans le miroir, que le but de Dieu est de nous rendre soumis ou obéissants, ou rangés, comme on l'a fait trop souvent. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Moi, ce qui m'aide, c'est de transférer à l'éducation des enfants. Est-ce que le but de l'éducation est de rendre les enfants obéissants? Alors, je dirais que non, je dirais que l'obéissance est un moyen utilisé parmi d'autres pour que l'enfant, au final, ultimement, trouve sa place. Trouve sa place. S'épanouisse. Triomphe de ses mauvais penchants. Le but est son autonomie, sa liberté bien gérée. C'est pareil pour nous. Quelle vision de la parole de Dieu avons-nous? C'est une deuxième question. Est-ce que nous cherchons des préceptes auxquels nous devons obéir? Ou est-ce que nous contemplons l'intention prodigieuse de Dieu de nous rendre libres par lui et en lui? Troisièmement, c'est une loi qui produit l'action. Il y a un chant de louange contemporain, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous le chantez parfois, mais le chant dit: quand tu parles en s'adressant à Dieu, des galaxies voient le jour. Quand Dieu parle, quelque chose se crée. Je trouve ça fabuleux. Quand Dieu parle, quelque chose se crée. La loi de liberté ne peut pas rester stérile. La Tobe traduit le passage que nous avons lu: devenez des réalisateurs de la parole. J'aime énormément cette traduction. Devenez des réalisateurs de la parole. Et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là sera heureux dans ce qu'il réalisera. La loi de liberté ne nous appelle pas à être des auditeurs, mais des réalisateurs agissants. Alors ça m'a fait penser à mon beau-frère qui travaille dans la réalisation de films. C'est assez fascinant, tout naît dans son esprit. Tout naît d'une idée créative dans sa tête. Et cette idée va engendrer toute une machine qui demande beaucoup de travail pour faire advenir cette idée, pour la réaliser. S'il écoutait les obstacles, les craintes, les manques de financement, rien ne se produirait jamais. Mais quand il se lance dans un projet, il s'accroche à son idée, à sa vision, avec confiance et aspiration que cela doit se réaliser. Et je me disais, nous chrétiens, nous sommes appelés à être des réalisateurs. La loi de liberté fait naître en nous des inspirations, des projets, des idées, des intentions, qu'elle nous appelle à transformer en réalisation. Et cela va du plus petit au plus grand. On commence toujours par la petite porte. Priez pour une personne mise sur notre cœur. Prendre le temps de prendre des nouvelles de quelqu'un qui vient à notre pensée. Créer, peindre, danser, servir les plus démunis, jouer d'un instrument, réaliser un projet, s'occuper d'un enfant, partir en mission dans un quartier, donner ses biens aux pauvres, cuisiner un repas pour un malade, visiter un prisonnier, prêcher, encourager, sourire. Je vous laisse continuer la liste. Une troisième question ce matin. Est-ce que la peur des obstacles, du déni, de la distraction nous maintiennent dans un statut d'auditeur? Notre destinée est d'être des réalisateurs agissants. Y a-t-il un projet dans mon cœur, une idée que le Seigneur m'a mis à cœur pour lequel je sens que je reste un auditeur? Quatrième et dernier point, la loi de liberté vers un bonheur profond. Ça m'a marqué en travaillant ce texte. Il est dit: celui qui deviendra ce réalisateur sera heureux. Le texte aurait pu dire: celui qui deviendra ce réalisateur, fera bien, fera la volonté de Dieu, sera obéissant. Mais non, Jacques dit, le réalisateur de la parole sera heureux. Est-ce que ma lecture de la parole et ce qui en découle me rend heureux? Est-ce que, quand j'ai l'impression d'obéir justement à la parole, de répondre à une inspiration, je suis rempli de crainte ou de tristesse, ou d'impression de renoncement, de non-adéquation avec moi-même? Je constate que beaucoup ont abandonné la foi autour de moi, tellement les préceptes à appliquer, la conformité à adopter, créent un schisme intérieur. Or, nous sommes destinés à être un, unifiés, indivisibles, et le Christ est la tête qui tient tout unifié en nous et dans l'Église, dans le corps du Christ. L'Ancien Testament promet « Je graverai la loi dans notre cœur, à l'intérieur de nous ». Sommes-nous heureux dans notre pratique de la parole? Jaillit-elle de notre cœur ou reste-t-elle extérieure à moi? Pour conclure, la loi de liberté est cette parole vivante et gratuite d'amour qui m'est adressée personnellement, avec mon prénom. Cette parole ouvre un dialogue intime. Le Seigneur nous dit « Je t'invite à découvrir un amour, une qualité d'amour insoupçonnée. Veux-tu demeurer dans cette loi de liberté ?» et devenir un réalisateur agissant. Il pourra y avoir des obstacles, il pourra y avoir des difficultés, évidemment. Mais il y a une joie profonde. Le Seigneur dit, poursuis ce dialogue avec moi en scrutant ma parole, en te penchant sur elle. Goûte à la liberté, goûte à la joie qui va transcender les renoncements, les épreuves et la souffrance. Va et agis. Je voudrais terminer cette méditation par un verset d'un chronique, chapitre 28, verset 20. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen.